Il est 8h.
Très agréable de pouvoir boire un café comme ça, en se posant sur la première terrasse venue. On avait l'impression de vivre dans un monde en berne, et puis là j'ai l'impression que ça revit.
La France renoue avec son art de vivre, des restaurants aux lieux de culture, réouverture aujourd'hui, et premières impressions en terrasse d'un bistrot parisien et à la sortie d'une salle de cinéma stéphanoise qui a exceptionnellement commencé ses projections à 6h30. Dans ce journal aussi, du bleu, celui des policiers mobilisés pour demander plus de sévérité contre les agresseurs des forces de l'ordre, et le bleu du maillot de l'équipe de France que se prépare à enfiler de nouveau Karim Benzema pour l'Euro de football. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, la maire de Paris, Anne Hidalgo, jour de réouverture des terrasses et lieux de culture, et puis comme vous venez de le dire, jour de rassemblement aussi des policiers à Paris. Rendez-vous 8h15 pour l'interview.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quand la normalité prend des airs d'exception, avec presque un sentiment d'extraordinaire ce matin à la simple idée de s'attabler en terrasse pour un café ou pour un verre. Ça fait près de 7 mois que les bars, brasseries, restaurants avaient fermé leurs portes. Mais ce matin, les percolateurs ont repris du service. Le bruit des tasses dans les soucoupes a commencé à résonner. Les tireuses à bière se préparent aussi à mousser.
Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Alors vous êtes au café Terminus à la gare de Lyon, à Paris, où vous avez déjà croisé pas mal de monde ce matin.
Oui, ça y est, depuis 7 heures à peu près, c'est parti. La terrasse où je me trouve était même pleine il y a quelques minutes. Un café et tac, ça repart, puis ça se re-remplit. Eulalie a pris la totale hein, avec chocolat, jus d'orange et viennoiserie. Elle s'est levée à 5 heures et est venue spécialement de Fontainebleau pour profiter de la journée.
Ah, c'est du plaisir. Beaucoup de plaisir, du bonheur. On attendait tellement ce jour. Et voilà, j'ai pris ma journée pour ça.
Alors je vais aller dans l'expression cliché, mais je suis obligé de vous parler ce matin de sentiment de liberté retrouvée avec cette femme qui vient d'entrer dans le café, les bras levés vers le ciel. Enfin des terrasses, je vous propose d'écouter 23 secondes de gens heureux.
Tout à fait, pas besoin de s'asseoir sur les marches sales, on a une chaise confortable et une table, c'est chouette.
Ah, et puis surtout on va pouvoir avoir des toilettes, parce que ça c'était quand même... Enfin, c'était pas négligeable comme détail, quoi.
Très agréable de pouvoir boire un café comme ça, en se posant sur la première terrasse venue avant de prendre son train. Ça tombe très bien. Oui, ça a manqué quand même. On avait l'impression de vivre dans un monde en berne. Et puis là, j'ai l'impression que ça revit. Voilà
et c'est pas le gérant du café qui va dire le contraire. Ça commence bien avec, pour couronner le tout, un grand soleil quasi inespéré vu le temps de ces derniers jours.
Un café et tac, ça repart. Donc Pierre Herbulot en direct du café Terminus à la gare de Lyon à Paris.
Réouverture des... Gardez-nous une table, hein, Pierre Herbulot. Gardez-nous une table ce matin. Réouverture des terrasses donc à la moitié de la capacité. Le protocole de réouverture reste strict avec des jauges également fixées pour les magasins, les musées, les salles de spectacle et les cinémas.
Un déconfinement de la culture qui a déjà commencé. Bonjour Jean-Luc Boujon.
Bonjour.
Vous avez eu le bonheur déjà aux côtés de quelques-uns d'assister à une première projection au cinéma Le Méliès à Saint-Étienne.
Oui, parce que cette projection a démarré à 6h30 du matin. Elle n'est pas encore tout à fait finie car le film Petite Maman de Céline Sciamma a commencé en retard tellement il y avait de monde à l'entrée du cinéma. 200 personnes qui se sont pressées puis réparties dans les trois salles afin de respecter la jauge de 35%. En tout cas, grand moment d'émotion tout à l'heure dès les premières images sur grand écran, des écrans avant même le film. Écoutez. Voilà, des applaudissements pour exprimer la joie de retrouver les salles obscures. Et au moment des premières images du film, justement, les toutes premières impressions furtives d'Annick.
Bonheur de partager un film.
Voilà, le bonheur de partager un film. Un bonheur partagé par plein de cinéphiles ce matin dans la file d'attente.
C'est trop bien. Le cinéma réouvre et ça, c'est formidable. Je suis très contente d'être là.
Et c'est sympa, 6h du matin ?
Oui, très. J'aime beaucoup.
On est trop contents que les cinémas réouvrent parce que c'est bien beau les plateformes de streaming, mais rien ne vaut une salle obscure pour profiter d'un film, pour le vivre, pour le ressentir.
Mais là, 6h du matin ?
Eh ben, on va bien le ressentir. Quand j'ai vu l'information, j'ai dit mais bien sûr que j'y vais. Donc ce matin, 5h30, réveil, c'est parti. C'est aujourd'hui la fête du cinéma, vraiment.
Voilà, une fête du cinéma orchestrée par Pierre-Marie Clarel, patron du Méliès, si frustré depuis 7 mois.
Moi je trouve ça formidable, je suis assez ému en fait, parce que j'ai eu du mal à dormir quand même cette nuit. On a fini l'éclairage de la façade hier soir, et voilà, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des gens qui ont à peine 7 ans, je suis très très touché. Voilà, c'est chouette, c'est la magie du cinéma qui reprend, et en fait on travaille pour ça, donc.
Voilà. Du coup, aujourd'hui, c'est une orgie de films au Méliès, hein. 8 jusqu'à ce soir. Ça fait une séance toutes les 2 heures jusqu'à 19h30. C'est la dernière séance, 19h30.
Jean-Luc Boujon à Saint-Étienne, la nuit a été courte pour les patrons et pour tous ceux qui ont voulu en profiter. Le spécialiste cinéma d'Europe 1, Mathieu Charrier, nous le disait tout à l'heure. Embarras de choix en plus en salle. Hein. Une quarantaine de films à l'affiche, dont Adieu les cons d'Albert Dupontel, 7 fois césarisé, ou Drunk, récent Oscar du meilleur film étranger.
Ou L'étreinte, encore avec Emmanuel Béart, qui était mon invité il y a 20 minutes sur Europe 1. Et sur les terrains aussi, l'heure de la reprise. Entraînement en plein air à nouveau autorisé pour les enfants. Emmanuel Macron se rendra d'ailleurs aujourd'hui dans un club de foot de l'Aube où il présentera le pass sport, aide de 50 euros par enfant pour une inscription dans un club.
Premier pas donc ce mercredi vers un retour à la normale, et si les indicateurs de l'épidémie continuent de reculer, certains malgré tout ne sont pas prêts à déconfiner. Ce comportement, les spécialistes lui ont donné un nom, le syndrome de la cabane, la crainte de s'exposer, de sortir à nouveau. Témoignage avec Victor Dolande pour Europe 1.
Mathieu a contracté le Covid il y a 7 mois. Après 3 semaines d'immense fatigue, il a été hospitalisé pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Une immense frayeur, des séquelles encore bien présentes. Et comme il n'est pas encore vacciné, il craint d'attraper une deuxième fois la maladie.
J'ai failli mourir, j'ai failli perdre ma famille, j'ai failli perdre tout ça. Forcément que j'ai peur. Donc ça veut dire que réinfection, retourner juste en terrasse pour boire un café, honnêtement, je préfère le boire sur ma terrasse en toute sécurité.
Cet homme de 42 ans est pourtant persuadé que les professionnels mettront en place et feront respecter le protocole sanitaire. Il redoute davantage le relâchement des Français. Un sentiment partagé par Yaël, cadre dans une entreprise parisienne. Pour elle, ce sera un café en terrasse éventuellement. Mais rien de plus.
Je ne serais pas encore à l'aise d'aller à des concerts. C'est pas de ça dont j'ai envie, en fait. Je ne voudrais pas participer, en tout cas, à une quatrième vague. Là, on n'en est pas à se retrouver tous ensemble en mode 14 juillet.
Pour ces Français qui ne voient pas d'un très bon œil ce déconfinement, le seul sésame pour se relâcher et se rassurer, c'est la vaccination.
De leur côté, les patrons de discothèques veulent, eux, profiter du mouvement de réouverture. Un audience aujourd'hui devant le Conseil d'État avec l'espoir de pouvoir rouvrir à la fin du mois de juin.
2 semaines après le meurtre d'Éric Masson à Avignon, la mobilisation des policiers aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Rendez-vous est donné à 13h.
Pour obtenir des peines minimales en cas d'agression d'un représentant des forces de l'ordre et l'exécution effective des peines, Grégory Joron est le secrétaire général délégué d'Unité SGP Police FO, syndicat à l'initiative du rassemblement.
Malheureusement, la plupart du temps, on est souvent sur des peines qui sont en dessous d'un an de prison, qui du coup vont être transformées en peines alternatives. On a des exemples assez précis où finalement, quand quelqu'un est jugé pour avoir agressé un fonctionnaire de police, lui avoir infligé 21 jours d'incapacité totale de travail, ce qui est énorme, il prend 6 mois de prison ferme, mais sans mandat de dépôt. Donc en fait, c'est quelqu'un qui ne va pas en prison, pas une seule minute. Aujourd'hui, ça nous pose un réel problème de message envoyé à ces agresseurs et aux policiers. On espère surtout que cette manifestation soit vraiment une réussite, forcément qu'on ait du nombre, pour porter cette revendication de peine minimale. Parce que là, je pense qu'on est au-delà de toute sensibilité politique. On parle surtout d'un constat de société et de ce qu'on veut pour demain.
Le secrétaire général délégué d'Unité SGP Police FO avec Gladys Laffitte pour Europe 1. Manifestation en présence du ministre de l'Intérieur et de nombreux élus du Parti communiste au Rassemblement national. Seuls les insoumis qui dénoncent une surenchère sécuritaire n'en seront pas.
Votre journal se poursuit dans un instant sur Europe 1 avec le retour d'un banni. Karim Benzema réintègre donc bien l'équipe de France de football. Réaction d'un champion du monde, Benjamin Pavard, dans un instant sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, Marion Calais.
Et avec le chef du service des sports d'Europe 1 qui est avec nous, bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour à tous.
On va revenir sur la sélection hier de Karim Benzema en équipe de France, une première depuis 2015. L'attaquant du Real Madrid avait alors été mis à l'écart après sa mise en examen dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Ce dossier-là n'est pas clos, un procès doit se tenir en octobre. Qu'est-ce qui fait donc aujourd'hui, Jean-François, que Karim Benzema est à nouveau convoqué ?
Il y a tout d'abord le pragmatisme du sélectionneur. Lui, ce qui le guide depuis toujours, c'est la gagne. Or, depuis quelques mois, l'attaque de l'équipe de France, elle tousse, à l'image d'Olivier Giroud, qui ne joue quasiment plus à Chelsea. Les 2 derniers succès au Kazakhstan et en Bosnie ont été très poussifs. Deschamps l'a vu, il s'en est inquiété, il a étudié toutes les solutions. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le contact avec le clan Benzema a été renoué il y a quelques semaines. Alors sportivement, c'est une évidence. L'attaquant du Real Madrid boucle l'une de ses meilleures, si ce n'est la meilleure saison de sa carrière au Real Madrid. Les deux parties avaient tout intérêt à se rapprocher, à se parler. Deschamps, parce qu'il a besoin d'un leader en attaque. Et Benzema, parce qu'à bientôt 34 ans, l'envie était toujours là. Tellement fier de ce retour, a-t-il d'ailleurs posté hier soir sur les réseaux sociaux.
Jean-François Pérez, on accueille à présent le défenseur international de l'équipe de France, Benjamin Pavard. Bonjour.
Bonjour.
Avec le retour de Karim Benzema, c'est bien ça l'idée, Benjamin Pavard, on prend les meilleurs à chaque poste?
C'est sûr qu'il fait partie l'un des plus grands attaquants au monde. Ça fait de nombreuses années qu'il est au Real de Madrid et il est très performant. Il y a une discussion avec le coach et nous, en tout cas, on a entièrement confiance au sélectionneur. Et ouais, ça va être un plaisir de retrouver un joueur comme ça.
C'est important le mot plaisir. Quand on est de votre génération et qu'on voit Benzema évoluer au Real Madrid, on a envie de jouer avec lui en bleu.
Oui, c'est sûr. Après, il ne faut pas oublier aussi Olivier. Aussi, c'est un très grand attaquant. Il le prouve sans arrêt, malgré qu'il parfois il joue pas. À chaque fois, il rentre ou il est décisif. Donc, c'est aussi un grand attaquant. On a la chance d'avoir trois grands attaquants. Mais je veux dire que trois grands neufs en équipe de France. Donc, c'est sûr que c'est un plaisir.
Benjamin Pavard, on dit de Didier Deschamps qu'il n'est pas rancunier. Cette convocation, c'est la preuve de son pragmatisme?
Oui, c'est sûr, il est toujours ouvert à la discussion. Après, j'ai pu un peu écouter après. Apparemment, il y aurait une conversation avec Karim Benzema. Donc, c'est entre eux deux qui est le problème. Donc voilà, là, c'est bien. Ils ont pu se parler. Et puis voilà, comme j'ai déjà dit, on fait confiance au sélectionneur.
Désormais, l'Euro, donc, en ligne de mire, on ne se cache pas. On y va pour gagner?
Ah, c'est sûr. On a tous l'obsession de gagner ce trophée. On a envie d'égaler nos aînés. On va tout faire pour amener ce trophée, en tout cas en France.
Merci Benjamin Pavard. Benjamin Pavard avec nous sur Europe 1 ce matin. On va retrouver une interview en longueur du défenseur des Bleus ce soir sur Europe 1 dans l'émission spéciale autour de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Monaco. C'est bien ça, Marion?
Exactement. Coup d'envoi à 21h pour le match. Émission spéciale dès 20h.
Merci Marion. Il est 8h13 sur Europe 1. Dans un instant, Sonia Mabrouk et son invité, la maire de Paris, Anne Hidalgo. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h17 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Bienvenue à vous et bonjour Anne Hidalgo.
Bonjour.
C'est une étape importante bien sûr en ce jour avec la réouverture des commerces, des lieux de culture, des terrasses sous certaines conditions. Enfin, vous dites, il était temps de rouvrir.
Oui, il était temps de rouvrir parce que tout le monde avait travaillé sur des protocoles, je pense aux lieux culturels. Et puis on aura aussi l'inauguration de la fameuse fondation cet après-midi, Pinault, qui va être extraordinaire. Et puis plein de musées qui réouvrent. Donc oui, il était temps. Il faut être prudent parce que même si, par exemple, sur Paris, mais partout en France, le taux d'incidence du virus a beaucoup diminué, il faut quand même être prudent, être dehors. Moi, je suis beaucoup les préconisations de nos médecins. Je pense notamment à Rémi Salomon, qui est président de la commission médicale de la PHP, qui dit ventiler, être dehors. Mais il faudra quand même prendre ses précautions. Mais quelle joie de retrouver la vie. Voilà, c'est
joie,
surtout
oui,
ça.
Vous avez raison. Mais faisabilité, parce que malgré tout, Anne Hidalgo, il y a des professionnels qui ne pourront pas rouvrir faute de rentabilité. Couvre-feu à 21h, jauge de 50% pour les terrasses. Est-ce que c'est trop contraignant pour une ville capitale comme Paris?
C'est contraignant, mais évidemment qu'il y avait les raisons sanitaires et que la santé, ça ne se négocie pas. Donc, et que tout le monde a fait des efforts et que les restaurateurs et tous les actifs ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais c'est vrai, je pense encore à celles et ceux des restaurateurs qui, parce que leur modèle économique ne leur permettra pas simplement d'ouvrir le midi, attendront sans doute le desserrement, là aussi, du couvre-feu au mois de juin, qui leur permettra de faire aussi un service le soir. De notre côté, on a souhaité accompagner tous ces entrepreneurs à Paris, notamment en faisant encore des exonérations pour toutes ces terrasses. Et en partant d'un principe de confiance, ils peuvent investir des lieux, des espaces. Ils doivent respecter évidemment un certain nombre de conditions, et notamment la question du bruit pour les riverains. Mais j'ai voulu partir, là encore, cette année comme l'année dernière, de ce principe de confiance. Et puis, on verra, on contrôlera et on
sanctionnera ceux qui... Mais c'est important, parlons-en, parce que ces terrasses éphémères, quand même, c'est près de 9800 dans la capitale. Elles inquiètent certains élus d'arrondissement qui dénoncent, Anne Hidalgo, une forme d'anarchie. Et ils vous demandent pourquoi ne pas avoir vraiment encadré de telles installations?
D'abord, je pense qu'il faut faire confiance aux gens, aux entrepreneurs. Les terrasses, ce sont des restaurateurs, des patrons de café qui ont quand même énormément souffert. les Parisiens, la population tout entière a beaucoup souffert aussi de ce confinement. Donc moi, je pars du principe de la confiance. Et ceux qui ne respectent pas les règles du jeu, eh bien, ils seront sanctionnés. Mais
vous imaginez faire la police de ces terrasses aujourd'hui ?
En fait, ce qu'on a fait, puisqu'on est en train de mettre en place la police municipale, depuis déjà plusieurs jours, nos équipes passe voir les restaurateurs. Vous savez, c'était très, très beau d'ailleurs dans Paris ces derniers jours, parce que tout le monde était en train de briquer sa terrasse, de la réparer, ça s'agitait, ça s'animait partout. Et nos équipes sont passées pour dire, voilà, on vous demande bien sûr de respecter et puis de faire respecter aussi les gestes barrières, parce qu'il faut continuer évidemment à être très vigilant.
On va retenir quand même le caractère évidemment joyeux de cette réouverture, mais je vous donne une indication parce qu'elle sera à votre place demain à ce micro, Rachida Dati, qui dénonce votre précipitation, affirmant sur ces installations éphémères qu'il n'y a pas de cadre prévu, pas d'occupation du domaine ni de cadre esthétique. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
D'abord, c'est totalement faux. Et puis, elle s'oppose. Je pense qu'on peut être dans une opposition un peu plus responsable et réaliste. Et puis, surtout, arrêter de penser que la politique, c'est juste attaquer ses adversaires. La politique, c'est faire des choses pour que les gens vivent mieux. Et donc, ces terrasses, elles vont permettre quand même aux restaurateurs de s'en sortir, de vivre mieux. Et je pense qu'il y a des moments, pour la polémique politicienne, et puis il y a des moments d'ailleurs qui doivent être assez courts, ceux-là. Et puis surtout, notre boulot, c'est quand même de nous occuper des gens et d'améliorer leurs conditions de vie.
Il y a des moments de rassemblement, et ce mercredi justement, jour de rassemblement inédit, important pour les forces de l'ordre, des politiques seront présents, Anne Hidalgo, dont le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il a raison, Gérald Darmanin, d'être parmi eux pour mieux soutenir ces femmes et ces hommes policiers aujourd'hui ?
C'est une situation un peu étrange pour un ministre de l'Intérieur, puisque c'est quand même, j'imagine, des choses qui lui sont adressées. Mais j'ai bien entendu aussi le message des syndicats de policiers qui ne veulent pas d'instrumentalisation politique.
Donc, il y a un risque. Parce que vous y serez également.
Oui, j'y serai avec les maires de mon équipe, de ma majorité. Oui, parce que je pense d'abord qu'il faut soutenir nos policiers parce que c'est eux qui nous permettent de vivre de la façon la plus pacifique possible dans nos quartiers, que leur travail est très difficile, qu'ils ne sont pas suffisamment outillés. Je pense notamment, bien sûr, à la question de la lutte contre les trafics de drogue.
On va en parler.
Qui est quand même ce qui mine notre société aujourd'hui. Donc je veux leur apporter mon soutien. Tout comme d'ailleurs, pour moi, la création de la police municipale parisienne est aussi une façon de partir d'une réalité et d'apporter une solution pour plus de tranquillité. Je crois que nos concitoyens ont... Et d'abord, la sécurité, c'est ni de droite ni de gauche, c'est un droit.
Vraiment ? Mais quand, par exemple, Jean-Luc Mélenchon estime que c'est une manifestation revendicative, qu'il n'y sera pas ? Vous
il
comprenez
fait ce
cette
qu'il
position
veut, il fait ce qu'il veut.
C'est quand même un leader en représentant politique. Il fait ce qu'il veut, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Ce n'est pas celui qui incarne ma pensée, si vous voulez.
C'est la question que vous posez.
Sans aucune polémique de ma part. Mais non, je pense qu'il faut partir. Vous savez, moi, c'est ma méthode. C'est comme ça que j'ai envie aussi d'avancer. On part du réel, on part de ce que vivent les gens. Et on essaye d'améliorer. C'est ce qui, d'ailleurs, m'a conduit à Paris à pousser cette idée de police municipale, qui sera présentée d'ailleurs au mois de juin. J'espère qu'elle sera très très largement soutenue par les élus, parce que ça voudrait dire qu'ils ont compris aussi ce que nos concitoyens nous disent.
C'est important ce que vous dites, mais vous dites que vous soutenez la police jusqu'où, Anne Hidalgo ? Est-ce que vous soutenez les revendications, parce que c'est cela dont il s'agit aujourd'hui, des forces de l'ordre, sur des peines plus sévères, voire des peines automatiques, planchées à l'égard de leurs agresseurs, des agresseurs de policiers ?
D'abord, bien sûr que quand on agresse l'autorité publique, il doit y avoir une condamnation extrêmement ferme.
Ce n'est
parce
pas le
que
cas, ce qui souvent.
Pas toujours
parfois
le cas, et il y a sûrement à reprendre ce dialogue, évidemment, police-justice, qui n'est pas nouveau, et qui est vraiment quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Je pense surtout qu'il faut plus de moyens, et qu'il faut aussi peut-être penser d'autres façons de faire sur les questions. Par exemple, à Paris, où on a été confronté aux questions de maintien de l'ordre, qui, notamment au moment des manifestations des Gilets jaunes, qui ont souvent dérapé, qui ont mobilisé des forces très 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 nombreuses de policiers sans pour autant que l'efficacité des techniques de maintien de l'ordre ne soit au rendez-vous. Il y a des pays dans lesquels on fait de la désescalade, c'est-à-dire où les policiers, je pense à l'Allemagne, anticipent pour prévenir les violences dans les manifestations.
Mais comment anticiper?
Il y a d'autres façons de faire.
Quand maintenant c'est récurrent, Anne Hidalgo, à chaque manifestation, il y a des casseurs, il y a des black blocs et autres qui s'en prennent, qui veulent, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la réalité, casser du flic.
Oui, et casser tout court, et casser du flic. Et évidemment qu'il faut être très sérieux et très, non seulement dans la condamnation, mais en tous les cas très ferme par rapport à cela.
Mais c'est important ce que vous dites. Alors, est-ce que vous reconnaissez que la réponse pénale est inadaptée aujourd'hui? Est-ce que vous
reconnaissez que... Non, je ne dirais pas qu'elle est inadaptée.
Ce que disent les policiers.
Je pense aussi que... Oui, je ne vais pas... Je suis pas... Je me transforme pas.
Non, mais c'était ma question. Est-ce que vous les soutenez jusqu'à leur revendication totale?
Pour évidemment trouver des solutions qui passent par plus de moyens, qui passent aussi par une formation, qui passent par un continuum avec les polices municipales, qui passent aussi par d'autres techniques. Lorsqu'elles ne sont pas efficaces, je pense notamment au maintien de l'ordre, on aurait plutôt intérêt à s'inspirer de ce qui se passe en Allemagne et dans d'autres pays. Et puis sur la lutte contre les trafics de drogue, là aussi, c'est une approche globale.
Bah, parlons-en, à Stalingrad. Stalingrad à Paris, je précise simplement. À nos auditeurs. Et pour répondre à l'exaspération à Hidalgo des riverains, des habitants, bien les toxicomanes sont déplacés un peu plus loin dans un parc. Est-ce qu'en déplaçant le problème, on le résout?
Ce qui ne va pas, et évidemment que ça va soulager temporairement un quartier, mais ça va temporairement aussi venir perturber un autre quartier. Donc c'est une solution qui ne peut pas être
mais
durable.
Mais qu'est-ce qu'on
c'est
fait ce que pourrissement dit. Depuis des années
c'est ce
de
que
la situation.
J'ai dit aux deux préfets, préfet de police et préfet de région et aux autorités sanitaires, en fait, on ne peut pas juste aborder les questions de trafic de drogue s'il n'y a pas aussi en même temps une politique de santé publique. Et cette politique de santé publique, je la réclame depuis des années, notamment sur Stalingrad, avant c'était à la
entend,
porte de la chapelle.
Mais madame Anne Hidalgo, pour les habitants, pour les riverains, là maintenant, ceux qui ne peuvent pas dormir, ceux qui ont peur pour leurs enfants quand ils sortent, qu'est-ce qu'on fait?
Et ben, d'abord, ce que je veux leur dire, c'est que je ne me satisfait absolument pas de cette idée qui consisterait à dire on déplace le problème et puis on le fait tourner, parce que c'est ça la technique qui m'est proposée et qui ne me convient pas. Et je pense, en plus on a affaire à un problème de drogue qui est lié au crack, avec des personnes vraiment qui lorsqu'elles sont en manque ou consommatrices, d'abord elles sont en danger pour elles-mêmes mais aussi
peuvent devenir
pour les
extrêmement
autres,
violentes,
peuvent
oui.
devenir aussi extrêmement violentes. Vous savez, ils étaient précédemment à la porte de la chapelle. Je m'y suis rendue toutes les semaines avec les habitants pour les accompagner, régler, faire aussi ce qu'il faut auprès de la préfecture de police pour qu'on prenne ce sujet en considération. Mais là, maintenant, j'en appelle vraiment au gouvernement et notamment au ministre de la Santé et au Premier ministre, parce que c'est aussi une politique de santé publique
avec
qui nous permettra de régler ce problème-là.
Se passe même justice, hein,
évidemment
à Stalingrad,
qu'il faut
avec
éviter
des tirs de
ce genre de... qu'il faut éviter ce genre de situation d'exaspération que je comprends parfaitement, mais c'est au pouvoir public de le régler et ça fait des mois et des mois que je tends la main pour qu'on le règle.
Restons à Paris, Anne Hidalgo, le hashtag ça cache Paris qui dénonce notamment la saleté de certains endroits de la capitale, les travaux permanents, le mobilier urbain dégradé, le délabrement de certains lieux. Vous avez renvoyé ce mouvement à une opération orchestrée par l'extrême droite, est-ce que vous êtes dans le déni?
D'abord, si vous voulez, qu'il y ait eu derrière de l'instrumentation politique, je crois que ça n'aura échappé à personne. Qu'il y ait des problèmes de propreté dans Paris, évidemment, ça n'échappe non plus à personne et pas à la maire que je suis. Je le dis d'ailleurs à celles et ceux qui voient des situations dégradées autour d'eux. Il y a une façon plus simple et plus efficace de le signaler, c'est l'application Dans ma rue, qui permet une intervention directe de nos équipes pour aller ramasser ce qui aurait été dégradé.
Mais pourquoi avoir donné l'impression de ne pas écouter les plaintes des habitants de Paris?
D'abord,
qui n'ont rien à voir avec l'extrême droite,
s'il vous
et souffrent de voir leur ville sans les dire?
Moi, vous savez, quand ce sont des mouvements qui se cachent derrière l'anonymat, bon, j'ai comme un vieux réflexe qui consiste à dire je préfère que les gens soient démasqués. Voilà,
je pense que des gens dans la rue vous interpellent
en
parfois
vrai.
En vous disant, Hidalgo,
oui,
regardez
et cela,
dans la rue, il y a des associations de riverains.
Et cela, je leur réponds et on agit. vie. Et ce qui nous interpelle aussi à travers le 39-75 ou à travers notamment dans ma rue, évidemment qu'on agit. Ceux qui restent masqués dans des mouvements qui sont souvent portés par de l'anonymat, c'est autre chose. Voilà. Mais il faut être sérieux. Et il faut trouver des solutions. D'ailleurs, je m'y suis engagée pendant les élections municipales. Mettre plus de moyens sur la propreté, ça c'est une
et
première chose.
Et confier aux maires.
Et déconcentrer.
Ah voilà. Oui, mais avec des moyens.
Bien
sinon,
sûr.
Ce serait du cynisme de confier la propreté sans moyens financiers.
Bien sûr. Et je suis en train d'accomplir, d'entreprendre, et ça viendra en juin au Conseil de Paris, une grande déconcentration, un big bang de la proximité. C'est pas normal qu'un sujet de
on
papier
se méfie, hein,
dans
quand
la
on
rue
big bang, hein,
doive être
parfois,
géré.
Ça aboutit à rien.
Oui, mais moi je le prends parce que c'est vraiment un big bang pour Paris qui était quand même calé sur une organisation très centralisée comme l'État. J'ai décidé, puisque je prône la décentralisation, de me l'appliquer à moi-même et de l'appliquer à Paris. Et c'est dans la proximité qu'on gère ce type de problème. Ce n'est pas la maire de Paris, depuis son bureau, qui peut effectivement piloter les équipes et les priorités en matière
Anne Hidalgo,
de
deux questions, si vous permettez, rapide. Est-ce que vous confirmez que le centre de la capitale sera interdit ou très limité pour les voitures dès 2022 avec une zone à trafic limité?
Ça sera une zone de liberté pour les piétons.
Vous
pour
le voyez
toutes
ainsi
celles... Bien sûr que
et
je le vois
et de contraintes pour les automobilistes.
Oui, vous savez, je crois que...
Pensez à eux.
Ce sujet-là est vraiment plutôt derrière nous, heureusement, au sens où beaucoup de Parisiens, beaucoup de Franciliens, d'ailleurs avec la métropole du Grand Paris, on s'est engagé dans une zone à trafic limité. Vous voyez, ça ne concerne plus que Paris. Donc ça fait école pour une raison simple, c'est que la pollution était insupportable et que, heureusement, elle est en train de baisser, mais que, bien sûr, il faudra permettre à celles et ceux qui ont besoin de se déplacer en véhicule électrique, je pense aux riverains, je pense aux commerçants, je pense évidemment aux taxis et aux autobus, de pouvoir continuer
à le faire. Pensez aux automobilistes un peu, hein, ils existent, hein, c'est pas une espèce en voie de disparition.
Sur Paris, si vous voulez, on se déplace beaucoup moins en voiture que par d'autres formes et c'est une très bonne chose. Et pensez aux automobilistes. Oui, mais vous savez, on est quand même dans une ville qui a un réseau, une densité de transports en commun qui est la solution. L'avenir, voilà, il faut être très clair, l'avenir dans des grandes métropoles comme les nôtres, ce n'est pas le déplacement individuel dans sa voiture, sauf pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement.
Oui.
Mais si ceux qui peuvent faire autrement font autrement, eh bien, la situation s'améliore pour tout le monde.
Merci.
Donc ça sera un bel espace piétonnier pour beaucoup, beaucoup d'ailleurs qui est très soutenu par les riverains et
merci
les habitants.
Merci Anne Hidalgo. Peut-être une question qu'on peut poser avec Mathieu, parce qu'on sait que vous êtes amateur, amatrice, je ne sais pas comment il faut le dire, de football.
Ouais.
Est-ce que le retour de Karim Benzema en équipe de France, c'est une bonne nouvelle?
Oui, c'est une très très bonne nouvelle. Vraiment, je trouve d'abord c'est un joueur d'un talent immense et je suis très très heureuse qu'on puisse compter sur lui.
Et un amoureux de son pays qui chantera la Marseillaise, vous n'avez
écoutez,
pas de doute.
Enfin, j'ai vu ce que disait l'extrême droite. Au moins,
décidément,
quand
vous voyez que l'extrême droite.
Quand ils ont dit, bah, en tous les cas, ils sont très présents et quand on les entend dire ce qu'ils ont dit sur Benzema, ça fait un peu peur, hein. Et on se dit, méfions-nous, hein, parce que derrière ce
type de
propos.
Mais il faut retenir Didier Deschamps aussi.
Bah, Didier Deschamps,
on est capable de mettre ses différents côtés, Anne Hidalgo.
Bah, absolument. C'est, oui, enfin, avec l'extrême droite, c'est plus compliqué.
Il y a
si
un message. Merci Sonia à vous.
Merci à vous. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci beaucoup.
Il est 8h33 sur Europe 1 et Émilie Dez nous rejoint. Le rappel de l'info, Émilie.
Prendre un café en terrasse, faire du shopping, aller voir un film, autant de petits plaisirs retrouvés aujourd'hui avec la réouverture des bars, des restaurants, des théâtres et des magasins. Le couvre-feu en plus est repoussé à 21h. Les policiers dans la rue, deux semaines après la mort d'Éric Masson, tué à Avignon, ils se mobilisent aujourd'hui à Paris pour réclamer plus de sévérité pour les agresseurs des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, viendra apporter son soutien aux manifestants. Et puis, il est de retour en bleu, 5 ans après sa dernière sélection. Karim Benzema fait partie des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour participer à l'Euro le mois prochain.
Merci Émilie Dez, 8h34, Laurent Cabrol, un point météo.
Et c'est une journée, disons, agitée, avec à la fois des averses, des orages, mais aussi des éclaircies. Et entre deux averses et deux orages, vous allez pouvoir bénéficier d'un brin de soleil. Et si cette éclaircie est suffisamment durable, vous allez quand même pouvoir déjeuner peut-être en terrasse. Alors, la moitié de la la France, la moitié nord est sous ce ciel agité. Et près de l'Atlantique, comme dans les régions du sud, ça ira beaucoup mieux, avec des beaucoup mieux, et des températures maximales entre 15 et 18 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Il est 8h34 sur Europe 1. Dans un tout petit instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Et l'ordonnance du jour est extrêmement simple. À midi, ce sera entrée, plat, dessert, café à volonté. C'est le docteur qui vous le recommande pour votre santé.
En plus, je signe. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h36 sur Europe 1. Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 est avec nous et nous y sommes, Jimmy, réouverture des terrasses. Et vous nous proposez ce matin de tout simplement nous faire plaisir.
Et oui, bye bye le docteur qui vient vous rabâcher qu'il faut manger 5 fruits et légumes, de faire attention à sa ligne. Cette réouverture doit être synonyme de fête et donc de plaisir. Mais je vais quand même vous accompagner pour vous donner quelques pistes pour à la fois prendre du plaisir, mais aussi assurer malgré tout un bon équilibre nutritionnel. Et tout ça commence par le petit déjeuner.
Alors justement, on y prend quoi au petit déjeuner? Ce qui nous fait plaisir là aussi?
Oui, évidemment, même si quand même l'idéal c'est d'éviter si on peut les sucres rapides contenus dans des viennoiseries qui apportent finalement beaucoup de sucre et des calories pour pas grand chose. Privilégier par exemple des tartines au pain complet avec pourquoi pas un avocat riche en bons gras ou des œufs qui peuvent être au plat, brouillés à la coque ou sous forme d'omelette, car l'œuf est riche en protéines et en acides aminés essentiels pour l'organisme et procure aussi une bonne sensation de satiété. Sachez malgré tout que ce repas n'est pas obligatoire sauf pour les enfants qui ont besoin de carburant pour bien faire fonctionner leur méninge à l'école. Ouais,
sinon on en avait déjà parlé, il y a le coup de creux à 10h30, 11h du matin. À midi on privilégie quoi? Entrée, plat, plat, dessert?
Mathieu, voyez les choses en grand, ce sera entrée, plat, dessert, inutile de choisir, franchement.
Et fruits normands.
Oui. Non mais faites-vous plaisir ce midi, évidemment. Vous allez peut-être vous rattraper ce soir en mangeant un peu plus léger, en évitant par exemple de consommer des féculents au dîner. Puis n'oubliez pas que la réussite d'un repas tient évidemment à la qualité de ce que vous avez dans l'assiette, mais aussi la convivialité du moment que vous allez partager avec vos amis ou vos proches. Les Français seraient d'ailleurs les champions du monde du temps passé à table, ce qui est une bonne chose, car je vous rappelle que le signal de satiété, c'est-à-dire le message de votre cerveau pour vous dire d'arrêter de manger, arrive 20 minutes après le début du repas. Vous comprenez donc qu'en discutant avec vos amis, bien finalement, vous mangerez un peu moins que seul derrière votre écran.
Les champions du monde du temps passé à table, et on est aussi le seul pays qui parle du prochain repas en mangeant. À midi, on est capable de demander qu'est-ce qu'on mange ce soir. Bon, ça c'est encore autre chose. Et du côté de l'hydratation, aux gazeuses ou aux plates?
Comme vous voulez, encore une fois, libre à vous, faites-vous plaisir. Même si l'eau du robinet peut faire l'affaire, mais une eau gazeuse peut vous aider à mieux digérer ce repas un peu de fête grâce aux bulles et plus particulièrement au dioxyde de carbone qui assure une meilleure digestion. En revanche, Mathieu, si vous souffrez d'aérophagie ou de ballonnement, ces eaux gazeuses risqueraient d'empirer la situation. Un mot malgré tout de prévention, même si la joie et l'euphorie de se retrouver sont grandes, soyez vigilants sur votre consommation d'alcool, car tout excès pourrait évidemment gâcher la fête.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed, et ça y est, on se projette. Peut-être que certains nous écoutent en terrasse en ce moment avec l'appli Europe 1. Jimmy Mohamed, on vous retrouve à 15h, sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Aujourd'hui, comment prendre soin de ses gencives. Notre planète à présent avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et vous revenez ce matin Fanny, j'avais vu ça sur une expérience absolument fascinante de dépollution des sols par les plantes. Écoutez bien, dans des communes polluées du sud de la France, on a mis en place ce genre de système?
Oui, c'est ce qu'on appelle la phytoextraction ou la phytostabilisation. C'est un processus effectivement qui consiste à cultiver des plantes gourmandes en métaux lourds sur des sols pollués par les activités industrielles passées et présentes. Alors à Saint-Laurent-le-Minier, dans le Gard, l'extraction de plomb et de zinc jusque dans les années 90 a laissé dans le sol un taux de concentration de métaux lourds 500 à 800 fois plus élevé que le seuil autorisé. C'est un aléa sanitaire de taille et un véritable poison. Alors, pour réhabiliter ces anciens terrains d'extraction, un laboratoire mène actuellement une expérience de phytoextraction avec deux plantes qui raffolent de zinc et de plomb et qui vivent bien dans ce milieu hostile. Ces deux plantes magiques sont le tabouret des bois et l'antilide vulnéraire.
Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne cette phytoextraction et que fait-on des plantes fois qu'elles ont rempli leur mission?
Alors, les scientifiques utilisent ces plantes dites hyper-accumulatrices car elles peuvent stocker dans leur tissu de grandes quantités de substances toxiques. Les plantes utilisées dans le Gard peuvent par exemple stocker jusqu'à 2% de métaux lourds dans leur organisme. Avec ce rythme de stockage, les chercheurs pensent qu'on parviendrait à dépolluer des sols ruinés en à peine 5 à 10 ans. Mais la bonne nouvelle va encore plus loin. Les plantes hyper-accumulatrices peuvent être broyées pour qu'on récupère les métaux lourds d'un côté et la biomasse de l'autre. l'autre. Deux pierres de coups donc dans la production d'énergie. Bien sûr, cette biomasse est très utile et les métaux lourds peuvent être aussi réemployés dans l'industrie. De cette manière, les végétaux deviendraient de nouvelles mines d'extraction et les scientifiques ont d'ailleurs inventé un nouveau mot et parlent d'agromine.
Agromine. Alors vous nous dites que cette nouvelle technique d'agromine, on va s'approprier le mot, offre des débouchés pour des agriculteurs dont les sols seraient devenus incultivables.
Mais oui, les scientifiques recensent désormais quelques 400 plantes qui pourraient servir à la phytoextraction. Parmi elles, il y a l'espèce Allison des murs, je ne sais pas si vous connaissez, qui est en train de venir à la rescousse d'agriculteurs albanais sur leurs terres saturées en nickel. L'Allison des murs peut absorber de grandes quantités de nickel. Les agriculteurs peuvent alors vendre leurs cultures à des laboratoires qui en extraient le métal, ce qui leur rapporte un revenu 3 à 4 fois supérieur à celui de leur culture traditionnelle. Voilà qui fait d'eux des paysans d'un genre nouveau, des agriculteurs ou plutôt des agro-mineurs au service de la dépollution des sols.
Agriculteurs et agro-mineurs, donc on aura noté. Notez aussi voilà, le nom de ces plantes, l'Allison des murs, vous avez cité aussi l'antilite vulnéraire et le tabouret des bois. Quand vous allez les voir sur Google, comme ça, vous vous dites c'est quoi ces plantes magiques, mais c'est toutes petites fleurs comme ça qu'on voit qui ne payent pas de mine et qui sont absolument partout et qui a priori pourraient dépolluer nos sols. Merci beaucoup Fanny Agostini, notre planète, c'est tous les matins et c'est sur Europe 1, 8h42, dans un instant. Nicolas Canteloup avec Julie.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Allez, on les retrouve tout de suite, Sonia Mabrouk et son invité, Anne Hidalgo.
Oui, mon invité, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Alors, ça y est, c'est l'heure de la réouverture des terrasses. Il était temps de rouvrir, Anne Hidalgo.
Oui, tout à fait, Sonia Mabrouk. Effectivement, il était temps de retrouver cet art de vivre à la française, retrouver ces terrasses qui rouvrent dans Paris. Temps de rouvrir, visiter aussi les musées, la Fondation Pinault, prendre un petit Pinault en fondation, c'est peut-être même plus agréable qu'un Pinault en terrasse. Mais vous savez, je crois que tout cela va bien se passer parce que j'ai décidé de faire confiance à tous les cafés, les restaurants. Je pars du principe de la confiance. Moi, ça me va bien la confiance. Et puis, nos services municipaux sont passés. Si les gestes ne sont pas respectés, eh bien, ils seront sanctionnés. Pour les élections, c'est pareil. Je fais confiance aux gens pour voter pour moi. Et s'ils ne le font pas, ils seront sanctionnés.
Alors attention, Anne Hidalgo. Je vais essayer de vous faire dire du mal de quelqu'un. C'est comme le ni oui ni non. Attention, c'est parti.
Oh non, vous n'y arriverez pas, Sonia Mabrouk. Car je suis tout en bienveillance, tout en rassemblement, tout en posture présidentielle. Vous n'y arriverez pas.
Alors attention, demain, ce micro, il y aura... Rachida Dati qui est très critique sur votre bilan.
Oh la connasse. Je crois que j'ai perdu.
On continue. Jean-Luc Mélenchon critique.
Oh le connard. Bon, mais bien sûr, je ne veux pas polémiquer.
Alors demain, il y aura Gérald Darmanin qui sera à la manifestation, qui assistera, qui défilera avec les policiers. Quel est votre regard?
Écoutez, c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'un politique de cette envergure qui est en poste, qui est en train d'être, qui est efficient sur le plan de la politique, participe à cette manifestation. C'est une forme d'instrumentalisation politique d'une manifestation. Je crois que ce n'est pas son rôle d'y assister.
Mais vous y serez?
Oui, mais moi, c'est pas pareil. C'est pas de la politique. C'est juste en vue de la présidentielle. En vous remerciant.
La manif, c'est aujourd'hui.
À vous,
hein.
Julie.
Merci, merci. Allez, Mathieu, c'est à vous pour les infos du jour. On y va.
Oui, bonjour, Julie. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde. Regarde le monde trinquer. Et oui, on va appeler ça toute la matinée, vous l'avez compris. C'est une formule, un élément de langage qu'on a trouvé à la rédaction d'Europe 1, c'est l'art de vivre à la française. Voilà, on va retrouver l'art de vivre à la française. C'est pour faire joli, mais en clair, ça s'appelle picoler. On le sait tous. La bonne nouvelle, elle vient de Laurent Cabrol. C'est vrai que, vu la météo, il faut juste tendre son verre devant vous pour noyer votre pastis. Merci Lolo pour le conseil. Et puis, l'info du jour, on vient de le rappeler avec Anne Hidalgo, c'est Gérald Darmanin qui sera parmi les policiers qui manifesteront devant l'Assemblée nationale. Ouais. Et oui, ils sont prêts à louper les policiers, la réouverture et les Ricards en terrasse. C'est qu'ils sont vraiment très très en colère. Ça, c'est un signe. Et puis, l'autre info, c'est Karim Benzema qui a été de nouveau sélectionné en équipe équipe de France et toute la rédaction d'Europe 1 a enquêté. Personne ne s'y attendait et on a l'info. Il aurait fait chanter Didier Deschamps avec une sextape, mais bon, l'important, c'est qu'on gagne l'Euro.
C'est ça, oui. Merci Mathieu. Le journal Le Monde a publié des révélations sur le créateur de Microsoft. Il aurait entretenu des relations avec une salariée du géant informatique. On va demander son avis à... Ah ben le voilà. Dominique Strauss-Kahn.
Bonjour, Dominique Strauss-Kahn. Votre consultant en emmerde conjugale. Décidément, je suis très demandé cette semaine.
Alors, on est tous surpris par ces aventures extra-conjugales de Bill Gates. Et vous ?
Écoutez, c'est mal connaître, cher Jules Clair. C'est mal connaître l'histoire américaine.
Pourquoi ?
Les Bills sont très chauds, même Julie, il faut le savoir. Que ce soit Bill Clinton, Bill Gates... Buffalo Bill même, Boulet Bill, et j'en passe.
Oui, c'est ça.
Si, Boulet Bill.
Bill, c'est chiant, je crois, dans Boulet Bill.
Alors, je sais que c'est un petit peu cliché, mais il n'a vraiment pas le profil de l'infidèle, Bill Gates, quand même.
C'est là où Bill Gates est très fort. Moi, c'est vrai que ça se voit direct, avec mon œil qui regarde dans les yeux et l'autre qui scanne la dame de haut en bas. D'où mon nom, Strauss-Kahn.
Oh, bravo!
Je suis immédiatement suspect, vous avez compris. Alors que Bill Gates, avec son pull en laine ras du cou, son pantalon en velours de prof de maths et ses lunettes à double foyer, c'est vrai qu'on ne le voit pas venir.
Ah, double foyer quand même. C'est un indice.
Bon, ah, oui, bien joué, bravo.
Bon, alors, selon vous, Dominique Strauss-Kahn, il a fait une erreur, Bill Gates?
Oui, une erreur impardonnable. Il a trompé sa femme.
Ah bah tiens, c'est nouveau ça. Faut pas tromper sa femme.
Bah écoutez, pas quand vous pesez 140 milliards. C'est totalement con. Ça coûte trop cher. Moi j'ai fait l'inverse. J'ai trompé une femme blindée. C'est à elle que j'ai coûté cher, la pauvrette.
La pauvre, oui. Allez, merci. C'est bientôt la fin du masque en extérieur. C'est une des nouvelles, bonnes nouvelles des jours prochains. Vous confirmez, Olivier Véran? Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Le masque a une carrière chaotique en France. C'est un peu le Karim Benzema de la santé. Il est passé de « oui, il est utile » à « non, il sert à rien », puis par « bien sûr qu'il est indispensable » pour finir par « bien sûr qu'on s'en fout du masque à l'extérieur ».
Alors, c'est pour quand la fin du masque? Dites-nous.
On y arrivera très bientôt, soyez-en sûrs, Madame
oui,
Julie.
Oui, d'accord, mais quand?
Bientôt, je viens de vous répondre. Genre dans pas longtemps, incessamment sous peu. Là quoi, c'est imminent. C'est une question de jours, d'heures, de mois.
Oui, enfin, vous n'en savez rien, quoi.
J'en ai aucune idée. Mais j'ai le sentiment que la fin du masque est pour bientôt. Vous savez pourquoi?
Non.
Parce que des usines françaises finissent par enfin produire des masques. Et je me dis que vu le bol qu'on a, si on produit des masques, c'est que très vite... On ne va plus en avoir besoin.
C'est sûr. Quelle belle analyse. Allez, merci, Olivier Véran. Philippe Devilliers a affirmé sur CNews avoir été guéri du Covid par Didier Raoult, qui lui aurait prescrit de l'hydroxychloroquine et du pastis. Bonjour, Philippe Devilliers.
Alléluia. Exactement, femelle. Didier Raoult, pour qui j'ai le plus grand respect, m'a prescrit de la chloroquine et du pastis. Et du pastis, ainsi que 3 cacahuètes. Écoutez, je ne vois pas pourquoi vous livrez cette info en ricanant bêtement, Mme Julie. Ça fait, oui, M. Béillard, oui, ça fait des mois que vous tartinez de solutions hydroalcooliques. Si le pastis, excusez-moi, c'est pas de l'eau et de l'alcool, je ne sais pas ce que c'est, alors.
Ouais, enfin, quand même, boire du pastis, c'est ridicule.
Non, mais écoute, ravale tes sarcasmes, gourgandine aquariophile.
Aquariophile.
Oui, j'ai le sens de la formule, toujours.
Ah ouais, c'est magnifique, oui.
Le pastis, que vous le vouliez ou non, j'en parlais à M. Vandel, m'a guéri du Covid. Et oui, c'est la vérité. Et je dois le dire, m'a refilé une sacrée pêche, comme dit les jeunes. Le professeur Cabrol connaît les vertus de ce breuvage tout à fait tonique qui redynamise le pastis. D'ailleurs, mon dernier livre, je l'ai écrit sous l'influence du pastis.
Eh ben, dis donc.
Et vous noterez que c'est mon meilleur livre. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai rendez-vous en terrasse. Oui, je continue mon traitement. Taillot, taillot,
eh ben, chin-chin, santé, monsieur Julien. C'est la liste de l'équipe de France la plus commentée depuis de nombreuses années. Karim Benzema revient, ce qui entraîne beaucoup de réactions à ce retour. Raymond Domenech, bonjour.
Oui,
alors,
bonjour.
Vous en pensez quoi, vous?
Écoutez, j'ai envie de dire bravo Didier. C'est formidable d'arriver à réunir tous les ingrédients du bordel. Moi, à la place de Didier, j'aurais poussé le bouchon, j'aurais rajouté Anelka, Ribéry et Cantona pour être vraiment sûr.
Ouais, bah c'est bon alors, merci Raymond, merci. Zinedine, vous êtes celui qui a toujours défendu Karim Benzema, vous êtes ravi de son retour, j'imagine, Zizou.
Oui, bonjour. Mais non, c'est sûr que reprendre Karim, c'est bien. C'est bien, là ça veut dire que le plan se déroule sans accroc, quoi, tout.
Bah, c'est-à-dire ?
Ben Karim revient, donc il va se prendre la tête avec Giroud, qu'il a traité de karting, alors que lui c'est la Formule 1. Ça va foutre une ambiance à la con, et l'équipe de France elle va perdre l'euro. Du coup, Didier Deschamps, ben Didier il va être viré, ça c'est certain. Et moi je vais reprendre l'équipe de France.
Ah bah tiens.
Et Karim, il va jouer très bien une fois de plus, comme toujours quand il joue pour moi. Quoi.
Ah bah, c'est pas bête, hein, finalement.
Ouais, merci, la stratégie fonctionne, ça bah fonctionne. Oui.
Didier Deschamps a donc annoncé sa liste avec Benzema, donc, qui fait son grand retour après avoir été banni 5 ans. Bonjour Didier.
Oui, bonjour. Oui, bon, bah, écoutez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Bon. Il y a aussi que les imbéciles qui prennent en attaque de pointe uniquement Olivier Giroud, qui ne joue plus dans son club depuis un an. Hein. Vous le savez, en tout cas, pour moi, ce qui compte, vous le savez, c'est la gagne avant tout.
Alors, vous avez évoqué une grande conversation entre Karim Benzema et vous, mais vous n'avez pas voulu en dire plus. Hein. On saura.
Oui, voilà. Non, je pense qu'il faut savoir rester discret. J'ai vu Karim, seul, nous avons une vraie discussion.
Mmh, ah bon.
Voilà. Bon.
Racontez.
On était seuls, voilà. Mmh. Voilà. Nous étions tous les deux dans une grande pièce.
Oula.
Le feu crépitait dans la cheminée.
Mon Dieu.
Et ce qui s'est dit ne regarde que nous. Mais sachez que je lui ai dit, Karim, tu le sais, tu m'as fait du mal. Je t'en ai peut-être fait aussi. Notre histoire est tumultueuse comme le torrent furieux qui court dans la vallée un soir d'orage.
Oh là 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 là, mais c'est quoi ça?
Mais parlons-nous, Karim. Tu sais, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux.
Le fameux.
Et là, il m'a dit, coach, mon dribble, tu l'aimes mon dribble, coach? Et ma conduite de balle, tu l'aimes ma conduite de balle? Et ma frappe, tu la trouves belle, ma frappe? Et mes fesses, tu les... Oui, bon, enfin,
bon
la suite, vous la connaissez,
ouais. On connaît. C'est donc son retour, voilà.
Mmh. Oui, j'espère qu'Olivier Giroud ne sera pas trop jaloux, voilà. Le retour des ex, c'est vrai que c'est toujours plus compliqué.
Ah oh bah oui, ça c'est sûr.
Bravo Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse qu'à retrouver sur Europe 1.fr. 8h56, il est là, c'est Philippe Vandel bien sûr pour Culture Média, la matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Mais oui, bonjour Mathieu, et pour nous aussi c'est le retour des ex puisque c'est la spéciale réouverture des lieux culturels, les ex endroits qui étaient fermés qui maintenant sont ouverts. On va démarrer notre info média du jour avec celle des musées. Après 6 mois et demi de fermeture, nous serons avec Fabrice Bousteau. C'est le rédac chef du mensuel culturel le plus vendu en France, Beaux-Arts Magazine. Et puis les cinémas, vous avez vu qu'il y a déjà gros attroupement devant les cinémas depuis 8h ce matin. On va en parler avec le président de Pathé Films, l'un des géants du cinéma français et même mondial, Ardavan Safaé. Et puis on fera le point sur les films à voir avec une belle sélection de Mathieu Charrier. Et puis la romancière Maïlys de Kerangal, c'est elle qui avait signé Réparer les vivants, livre magnifique qui était devenu un film. Elle sort aujourd'hui Canoë, un roman multiple. 8 nouvelles, toutes indépendantes et toutes imbriquées.
Et dans un instant, vous parliez de la réouverture des lieux de culture. Dans un instant, nous serons en direct du Louvre dans le journal de 9h. Merci beaucoup.
Formidable.
Philippe Vandel, Culture Média, 9h-11h sur Europe 1. Moi, je vous retrouve demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.